Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Amen. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire et que ton esprit de conviction remplisse les cœurs ce soir, convainc. Saint-Esprit, tu étais envoyé pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Fais ton œuvre ce soir. De moi-même, je ne peux rien faire. Mais c'est toi qui prends toute la place, c'est toi qui œuvres, c'est toi qui te transformes et renouvelles. Alors ton peuple va ressortir de ce lieu avec une plus grande mesure de connaissance de qui tu es. Une plus grande paix, une plus grande joie, une plus grande force, une plus grande puissance en toi. Viens fortifier, empuissancer ton peuple ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, tout le monde dit bien fort. Amen. Frères et sœurs, qu'il est bon d'être là, qu'il est bon de tout simplement l'adorer. Regarde ton voisin et dis-lui, ouvre tes oreilles spirituelles attentivement ce soir. Ce soir, j'ai un message à vous partager qui devrait être la base de l'évangile, la base de notre foi. Un message qui va faire pas appel à votre raison, mais à votre foi, par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli. Et le thème s'intitule « Qui es-tu en Christ ?» Regarde ton voisin et dis-lui « Qui es-tu en Christ ?» Et je ne savais pas trop comment intituler ce thème, et donc j'ai posé cette question « Qui es-tu en Christ ?» Et ensuite, une autre question m'est venue, et cette question, c'était « As-tu l'assurance de ton identité en Christ ?» Et même si on dit « Amen », je ne suis pas trop sûr que tous marchent dans l'assurance de leur identité en Jésus-Christ. Et c'est ce que j'aimerais ce soir qu'on puisse, en tout cas, mettre l'accent là-dessus. Vous savez, pour répondre à cette question « Qui tu es en Christ ?» et « As-tu l'assurance de ton identité en Christ ?» Pour avoir la révélation de qui nous sommes en Jésus-Christ, il nous faut la révélation de qui il est. Amen. C'est très très simple. Il nous faut la révélation de qui il est. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il est écrit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Mais pour être transformé en la même image, il faut réellement connaître cette image. Et cette image est une image glorieuse. Parce que nous sommes transformés de gloire en gloire. Pour être transformé, donc il faut connaître qui est Christ dans sa gloire. 1 Jean, chapitre 3, verset 2, nous dit ceci. Bien-aimé, est-ce qu'on peut lire ensemble, c'est affiché? Lisons ensemble, que tout le monde dise bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est très important. L'apôtre Jean dit, ce que nous sommes n'est pas encore totalement manifeste. Mais lorsque nous le verrons, lorsque lui sera manifeste, alors la manifestation de lui va nous révéler la manifestation de nous. Parce que nous sommes transformés à son image. Donc pour connaître qui nous sommes en Christ, il faut bien sûr savoir qui est Christ. Pour avoir l'assurance de son identité en Christ, il faut savoir qui est donc Jésus-Christ. Oui, on va dire qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le sauveur, le libérateur. Gloire à Dieu pour tout ça. Mais comme je disais, il y a quelque temps de cela, je disais... Christ est le sauveur, mais est-ce qu'il est réellement ton sauveur? Christ est le libérateur, mais est-ce que tu l'as expérimenté, toi, personnellement, comme le libérateur? Christ, Dieu, est celui qui pourvoit, mais est-ce que toi, tu l'as expérimenté personnellement comme celui qui pourvoit? Christ est notre justice, mais est-ce que toi, tu l'as expérimenté comme ta justice? C'est pas pareil. En proclamer qui il est de manière générale et avoir expérimenté dans sa propre vie qui il est pour toi et comment il s'est révélé à toi. Et ce soir, pour nous enraciner dans cette compréhension de qui est Jésus-Christ en tant qu'homme, surtout, nous allons essayer de comprendre un mystère que l'apôtre Paul nous parle dans les évangiles, dans les épîtres, surtout l'apôtre Paul parle, Christ fait allusion de ce mystère dans les évangiles, du mystère de Christ. Et comme c'est un mystère, c'est pour ça que notre raison va bloquer peut-être parfois. Mais c'est par la foi que nous devons recevoir cela. 2 Corinthiens 5, 14 nous dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Maintenant, tout le monde dit après moi. Ainsi, le verset suivant, s'il vous plaît. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ah. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela. L'apôtre Paul n'a pas connu Jésus-Christ physiquement sur terre. Pendant les 3 ans et demi de ministère de Jésus-Christ, quand Jésus a marché sur terre, l'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. Il a dû connaître Jésus par la révélation du Saint-Esprit. Et ici, il dit, « Mais maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, il dit maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons, plus de cette manière. » Verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est un verset connu pour la plupart d'entre nous, et c'est pour ça que je vous disais, c'est la base. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous apporter cette base de manière nouvelle, de manière différente, de manière fraîche. Nous puissions comprendre surtout ce passage. Nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Plus Christ en tant qu'homme selon la chair, pendant qu'il était sur terre. Il faut le connaître d'une autre manière. Parce que si nous sommes en Christ, si nous le connaissons de cette nouvelle manière, alors nous allons nous rendre compte que nous sommes une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses redeviennent nouvelles. Mais dans le contexte de ces deux versets 16 et 17 puissants, on avait lu que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts pour un seul, afin que ceux qui vivent, vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et Christ est mort et ressuscité pour nous. Il est mort et ressuscité pour toi et pour moi. Qu'est-ce que cela signifie? Si je te dis que Christ est mort pour toi, et si tu me dis « Amen, c'est bien », mais tu ne comprends pas quels sont tous les bénéfices de cette mort, alors la mort de Christ pour toi sera partielle ou elle ne sera pas pleinement vécue. Parce que tu ne comprends pas que sa mort produit des bénéfices, non pas uniquement pour toi, mais aussi en toi. C'est pas pareil. Quand la Bible dit qu'il est mort pour nous et ressuscité pour nous, ça signifie que sa mort pour nous a produit des bénéfices. Mais sa résurrection aussi a produit des bénéfices. C'est pour ça que je vous dis que ce soir, nous allons voir quelque chose de très basique. La mort et la résurrection de Jésus-Christ qui produit en nous, qui fait de nous des nouvelles créatures. Mais pour que cette mort et cette résurrection, on puisse s'approprier la pleine puissance, la pleine mesure de ce que Christ a fait. Donc comprenons donc bien ceci. La mort et la résurrection de Christ transportent des bénéfices surpuissants pour toi et pour moi. Et c'est le fondement de notre foi. C'est pour ça qu'il est très 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 important qu'on ne passe pas à côté. Aujourd'hui, je me suis amusé gentiment à poser aux frères et sœurs que j'ai rencontrés comme question, une question comme « Que représente la croix pour toi ? Que représente le tombeau ? Que représente la résurrection ?» Et j'ai eu plein de bonnes réponses, mais des réponses qui parfois manquaient d'exactitude. Et dans la prière, le Saint-Esprit me disait « Steve, affermis mon peuple dans ma mort et dans ma résurrection, qu'il puisse s'approprier tous les bénéfices de ce que j'ai accompli pour eux, car leur identité découle de ce que moi j'ai fait, de ce que moi je suis. » Amen. Donc, connais-tu vraiment les bénéfices de sa mort ? Connais-tu vraiment les bénéfices de sa résurrection pour toi ? Vous savez, il y a tellement de choses à dire que je ne pourrais pas prendre beaucoup de temps pour voir tout ce qu'on a à voir. Et j'aimerais passer rapidement, en tout cas sur les bénéfices de la mort, pour m'attarder un peu plus ce soir sur les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. On a vu un message une fois, je vous disais que pour bien voir les bénéfices de Christ, en tout cas la nouvelle créature qu'on est, il faut avoir une lunette 3D avec deux couleurs. La mort de Christ et la résurrection de Christ te permet de bien voir ce que Christ a fait pour toi. Si tu vois que la mort, il manque quelque chose, la résurrection. Si tu vois que la résurrection, il manque un paquet de choses. Mais la Bible dit, mais nous, nous prêchons Christ crucifié. Sagesse et puissance de Dieu pour celui qui croit. Pour celui qui croit ce soir, en la mort et la résurrection, les bénéfices que cela découle pour lui et pour elle, des bénéfices surnaturels sont à sa disposition. Alors regarde ton voisin, dis-lui, enregistre les bénéfices de sa mort pour toi et de sa résurrection pour toi. Alors d'une manière assez rapide, comme je vous disais, la mort. On va commencer de la passion jusqu'à la croix et le tombeau. On va commencer par Gethsémané. Comprenons bien qu'il y a eu des choses dans ce que Jésus-Christ a accompli. Chaque étape nous offre un bénéfice et qu'on peut réclamer dans le nom de Jésus-Christ à l'ennemi par la foi. Gethsémané, dans le jardin de Gethsémané, Jésus est dans le combat de la foi. La Bible dit qu'il priait tellement avec intensité que de son front coulaient comme des grumeaux de sang. Imaginez l'intensité de la prière. Le combat de la foi est à son apogée. Jésus emmène la foi à un niveau comme aucun homme n'a fait. Il combat. Et dans le jardin de Gethsémané, d'une part, il devait accepter la coupe qu'il ne voulait pas accepter. Il a dit, « Oh Père, éloigne cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Vous savez, on pense souvent que la coupe, c'est la souffrance. Jésus n'avait pas peur de souffrir, ce n'est pas ça qui le gênait. Ce qui le gênait, ce qui le horrifiait, c'est qu'il devait devenir péché, lui qui est saint. C'est ça qu'il n'avait pas envie. Il n'a jamais connu le péché. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus ne voulait pas devenir péché. Même s'il nous aimait, l'appréhension que lui, il devienne péché, soit séparé du Père, l'horrifié. Et cette coupe-là, il avait du mal. Il dit, Père, éloigne cette coupe. Mais dans le combat de la foi, il obéit, il emmène la foi et l'obéissance à une autre dimension. D'autre part, dans ce combat intense à Gethsémané, Jésus a obtenu par la foi, par avance, sa propre résurrection. Jésus avait déjà obtenu sa propre résurrection par la foi. Quand les soldats sont arrivés, il avait déjà vaincu. Il avait déjà vaincu. Dans la prière, dans l'intimité, il avait déjà vaincu. Ça, c'est à Gethsémané que tout commence, où la passion du Christ commence. Et ensuite, il y a plusieurs étapes. Et j'aimerais passer rapidement et juste nous permettre d'entendre quelques points clés pour que nous puissions nous approprier les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ comme jamais auparavant. Nous devons comprendre qu'il y a un échange divin qui se produit lors de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que nous recevons. Si nous sommes prêts à entendre et à recevoir par la foi, il y a des bénéfices extraordinaires que nous pouvons recevoir par la foi. Il y a un échange qui se produit. Et ça, c'est très important. Ensuite, après Gethsémané, comme vous savez, c'est la torture physique qui commence. C'est la souffrance physique. Et la Bible dit dans Isaïe 53, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc là, Dieu a commencé à orchestrer quelque chose de magnifique. Jésus a prié dans Gethsémané, il a obtenu la victoire. Et la torture commence. La souffrance commence. Les blessures commencent. Les meurtrissures commencent. Fouetter, humilier, cracher dessus. Le châtiment commence. Mais il souffre pour toi, il souffre pour moi. Il est saint. Il souffre pourquoi ? Pour que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, pendant le chemin de la passion, il se laisse blesser pour que toi et moi, nous soyons guéris. Il y a un échange divin qui se produit. Toi et moi, on ne mérite rien. Il a donné son dos. Afin que par la foi, on puisse dire dans le nom de Jésus-Christ, sois guéri. Par rapport à ce qu'il a accompli. Et ça continue. Après les tortures physiques, il verse son sang sur la croix. Il paye le prix par son sang de notre rédemption. On voit ça dans Éphésiens 1, 7. Et par son sang, nous sommes justifiés. Il y avait une dette qu'il fallait payer à cause du premier Adam. Sa dette, cette dette-là, la dette du péché, seul le sang pur et parfait, sans défaut de Jésus-Christ, pouvait le régler. Aucun sang d'animaux pouvait le faire. Et il est sans péché et il offre son sang. Et son sang nous rachète. Par le sang de Jésus-Christ, on est capable de dire à l'ennemi, j'appartiens à Jésus. Il m'a racheté. Il a payé le prix fort. C'est un échange divin puissant qu'il nous faut nous approprier par la foi. Et quand l'ennemi essaie de te convaincre pour te dire « Non, tu vois comment je suis capable de te pourrir la vie ?» Tu es capable de dire « Non, il m'a racheté par son sang. » Il y a un échange divin. Il commence à verser son sang par les meurtrissures. Le sang coule avec le fouet dans son dos. Ça commence. Et puis il va à la croix. Et à la croix, nous savons que c'est ce châtiment-là qui nous donne la paix. Il est jugé pour que nous soyons pardonnés. À la croix, il prend aussi la malédiction du péché pour que nous soyons bénédiction, nous dit Galates 3, 13. Il prend la malédiction du péché pour que nous puissions devenir en lui bénédiction, nous dit Galates 3, 13. À la croix, il se fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il brise la malédiction de la pauvreté dans 2 Corinthiens 8, 9. À la croix, il accepte l'humiliation et la honte pour que nous puissions être glorifiés, pour que nous puissions porter la gloire, la réputation de Dieu, pour que la réputation de Dieu repose sur nous. Il porte la honte du péché. On peut voir cela dans Hébreux 2, 10. À la croix, il dépouille les principautés, il dépouille les autorités, il les publie en spectacle. Et on voit ça dans Colossiens 2, 14, 15. Tout ça se passe à la croix. Il y a des bénéfices à la croix qu'il faut que toi et moi, nous soyons pleinement conscients et convaincus pour que face à l'ennemi, on est capable de tenir ferme et de dire non, voici ce que Christ a accompli pour toi et pour moi. À la croix, il triomphe du monde. Dans Galates 6, 7, l'apôtre Paul dit, le monde est crucifié pour moi, comme le monde était, parce que le monde était crucifié sur la croix. Je paraphrase. Le monde aussi, et toute sa puissance à la croix, et devient sans puissance. Il dépouille l'autorité du monde à la croix. À la croix, il anéantit la puissance charnelle. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis crucifié avec Christ. Ma vie dans la chair, je ne la vis plus pour moi, mais je la vis dans la foi au Fils du Dieu vivant. Je ne sais pas, mais ça fait déjà un peu de bénéfice. Hein. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte déjà de ce qui s'est produit à la croix. Un amen aurait été bien. Personne ne mérite ça. Mais par sa bonté, il y a un échange divin. Et à la croix, il commence à payer la dette. Il commence à prendre le châtiment. Il y a un échange qui arrive. Et tout cela, il le fait pour nous. Mais n'oubliez pas, il est mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Pour, ça veut dire qu'il est pour, il y a des choses pour toi et pour moi qu'on doit prendre possession. La croix, c'est un bénéfice pour nous, mais aussi la croix est un bénéfice qui se réalise en nous. C'est très important. Je n'ai pas le temps de trop tarder là-dessus par rapport au thème de ce soir. On a déjà vu ça sur les bénéfices de la croix, quelques peut-être années de ça, mais c'est très important. Parce que la croix, ce n'est pas un petit bout de bois qu'on porte dans le cou uniquement. Gloire à Dieu, si tu as un signe comme ça, merci Seigneur, tu peux être fier de la croix. Comme l'apôtre Paul dit, s'il faut me vanter, je ne me vanterai uniquement de la croix de Jésus-Christ, pour qui le monde a été crucifié pour moi, comme moi-même je le suis pour le monde. Il le dit. Donc oui, tu peux te vanter de la croix, mais comprends les bénéfices et reçois-les avec foi. Mais à la croix, il n'y a pas uniquement ça qui se déroule. À la croix, à un moment donné, son côté est percé. Et dans Jean 19, verset 34, la Bible dit: et un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jean 19, 34. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Je crois que si quelqu'un se blesse au côté, il y a du sang qui sort, mais il n'y a pas d'eau. Ici, il est précisé qu'il y a du sang et de l'eau qui sort. Et le symbole de l'eau et du sang est très, 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 très puissant. Et c'est ma transition pour nous ramener au bénéfice de la résurrection pour nous ce soir. Lorsque Dieu a créé le premier Adam, il a fait tomber dans un profond sommeil et il a pris une côte dans son côté pour créer Ève. Lorsque Jésus sur la croix, juste avant de mourir, son côté est percé et il y a de l'eau et du sang qui sort. Lorsqu'il y a de l'eau et du sang qui sort, en général, de son côté, c'est le symbole qu'une naissance va prendre place. Quand une femme va mettre un bébé au monde, elle dit, avant de perdre du sang, qu'elle perd les os. Pas les os, O-S. Quand j'étais petit, je pensais qu'elle perdait les os. Je dis, tonnerre, la colonne vertébrale échappe. Une femme perd les os et après le sang pour enfanter. Ce qui signifie qu'à la croix, Jésus là va enfanter quelque chose d'extrêmement puissant et de nouveau et de différent. C'est un parallèle avec Adam et Ève, ça parle de naissance. Ensuite, avant de rendre l'esprit à la croix, il dit « Tout est accompli ». Le péché, il a payé la dette du péché pleinement, il a versé son sang, il a pris la malédiction du péché, il a pris la malédiction de la terre avec couronne d'épines et tout ça. Il y a beaucoup de choses à voir, mais il dit tout est accompli. Quand il dit tout est accompli là, en réalité c'est comme un super guerrier soldat qui dit ça y est. C'est un cri de victoire, c'est pas un cri tout accompli de dur. Il est en train de dire ça y est, tout est accompli. Maintenant je peux m'en aller faire ce que j'ai à faire dans une autre réalité. Car j'ai fini avec la réalité de ce monde là, je vais aller entreprendre quelque chose dans une autre réalité. Il est en train de dire, c'est bon, j'ai accompli là. Bien. C'est un cri de guerrier, de victoire. Pas quelqu'un qui fait pitié sur la croix. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous devons comprendre ceci. Quand Jésus est mis au tombeau, il a déjà payé la dette du péché. Par son sang qui a été versé. Il a déjà réglé le compte au péché, c'est fini. Il y a autre chose qui se produit au tombeau. Il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe au tombeau? Et là, on va toucher un peu au mystère de Christ. Et pour rester juste biblique, je vais vous prendre quelques passages qui nous donnent une certaine lueur ce qui se passe pendant ces trois jours mystérieux. Au tombeau, la Bible dit dans 1 Pierre 3, 18, 19 que Jésus-Christ alla prêcher aux esprits du temps de Noé. La Bible dit aussi, et c'est Jésus qui parle dans l'Évangile, il dit à un moment donné dans Jean 2, 19, « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et trois en trois jours tu le relèverais. » Mais il parlait du temple de son corps. Et là Jésus commence à donner une indication de ce qui allait se passer pendant ces trois jours au tombeau. Et l'église de Jésus-Christ, avec un grand E, ne doit pas négliger ou ignorer les étapes et les bénéfices de la passion, de la croix, du tombeau, de la résurrection pour elle-même. Et pendant ces trois jours-là, Jésus donne une indication. Il dit, « Hey, je vais reconstruire le temple. » Et il parlait du temple de son corps. Notons bien le temple de son corps. Qu'est-ce que cela signifie ? Au tombeau, Jésus enfanta une nouvelle créature. Un nouvel homme. Et il donne une autre indication dans Jean 16, au verset 19. Il dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie, comme on l'a chanté tout à l'heure. La femme, et là il donne l'indication, il parle ici de ce qui se passe lorsqu'il va être plus là pendant un moment, il parle de ces trois jours. Et là il donne encore une indication puissante. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Waouh ! Ici, Jésus est en train de dire à ses disciples, vous n'allez plus me voir pendant un temps. Mais quand, pendant ce temps, vous n'allez plus me voir, vous allez vous réjouir. Parce que je vais donner naissance, moi, Christ, à quelque chose de nouveau. À un nouveau corps. L'eau et le sang, quand le centurion a fait ça, c'était un acte prophétique. Dans la côte, pour donner naissance à une nouvelle créature. La Bible dit dans Colossiens, il me semble, que Jésus-Christ a brisé le mur qui séparait les Juifs des païens pour faire des deux un nouvel homme, un homme nouveau. Et ça, c'est très, très, très important. On a lu tout à l'heure, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Si nous avons connu Christ selon la chair, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et je vous disais, qui es-tu en Jésus-Christ ? As-tu l'assurance de ton identité en Jésus-Christ ? Si tu ne connais pas clairement les bénéfices que Dieu, Jésus-Christ, te donne par sa mort et sa résurrection, ton identité sera floue. Il se passe quelque chose de mystérieux pendant ces trois jours au tombeau. Jésus enfante quelque chose de nouveau. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Le Christ qui ressuscite ensuite est différent du Christ qui a marché trois jours et demi sur terre. Et c'est ce que nous allons voir. Oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais ce qu'il a été de le commencement n'a pas été pleinement manifesté jusqu'à ce que toutes ces étapes soient accomplies. Jusqu'à ce qu'il paye la dette du péché, que en donnant son dos, on peut être guéri par la puissance de son nom, jusqu'à ce que son sang nous purifie et nous rachète, il va, dans ces trois jours, mettre une correction à l'ennemi, il récupère les clés du séjour des morts, il dit à Satan, tu fermes ta bouche maintenant, maintenant c'est moi qui détruis la mort, c'est moi qui reprends les clés du séjour des morts pour l'homme, et je suis la résurrection et la vie. Et il remonte, et il enfante pendant 3 jours une nouvelle créature. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, le Jésus-Christ ressuscité est différent du Jésus-Christ qui a marché 3 ans et demi sur terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, maintenant, si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant, après la résurrection, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Plus selon la chair. Il est le même, mais cette fois-ci, il est pleinement lui. Cette fois-ci, il est pleinement l'homme qu'il doit être. L'homme 100% homme et le Dieu 100% Dieu qu'il doit être. La résurrection aussi doit être la base de notre foi. C'est crucial. Amen. C'est la base. Vous regardez comme si c'est nouveau. 1 Corinthiens 15, verset 12. Et on va venir maintenant sur les bénéfices de la résurrection. Il est écrit, « Or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Si on n'a pas la révélation de la résurrection, notre foi manquera de puissance. Au verset 16, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Mais maintenant, verset 20, « Mais maintenant, tout le monde dit « mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Là, il y a quelque chose de très profond pour nous. Il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, car Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et Paul continue dans 1 Corinthiens 15, je vous encourage à aller le lire chez vous, tout le chapitre. Il continue au verset 35, il explique, s'il y en a qui se posent comment la résurrection peut avoir lieu, l'apôtre Paul dit, c'est simple, si tu prends une graine, je ne sais pas, de moutarde, d'haricot, et que tu sèmes cette graine d'haricot dans la terre, cette graine d'haricot va mourir et laisser pousser un autre corps différent du haricot. Tu ne fais pas des grains avec la plante des haricots. Ce n'est pas le même corps. Pourtant, ce corps vient de cette graine. Et il explique en disant, il en est ainsi de la résurrection des morts. Le corps est comme une graine. Il est semé, méprisable, mais ressuscite glorieux. Il est semé, faible, mais il ressuscite fort. Il est semé, fragile, mais il ressuscite indestructible. Et il explique que, comme la graine, en fonction du type de graine, donne différents types de corps, il appartient à Dieu, selon son bon plaisir, de faire ressusciter des corps glorieux, selon son bon plaisir. Et Christ avait commencé sur le mont des Oliviers, a donné une indication à ses disciples lorsqu'il était transfiguré devant eux. Ils ont commencé à voir un Christ glorieux. Et c'était les prémices de ce qu'il allait devenir, mais aussi de ce que nous allons devenir. On a lu un verset tout à l'heure, 1 Jean 3. Il disait, « Bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes réellement n'est pas encore totalement manifesté. » On avait lu ça tout à l'heure ensemble. Mais quand il paraîtra, alors nous paraîtrons aussi. Car tel il est, tel aussi nous sommes. Et ensuite au verset 42, jusqu'au verset 49, dans 1 Corinthiens 15, on va le lire, il donne des indications très puissantes sur le Christ ressuscité, sur le Jésus-Christ de la résurrection. Et là, il faut ouvrir vos oreilles, frères et sœurs. Là, le Christ de la résurrection, on va bien voir qu'il est différent du Christ qui a marché 3 ans et demi sur terre. Il est le même, mais cette fois-ci, dans sa pleine puissance, dans sa pleine autorité. Cette fois-ci, il est bien plus que le dernier Adam. Et on va voir cela dans 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Waouh ! Ça, c'est le mystère de la résurrection. Notre cerveau a du mal à comprendre. Dans ce passage ici, Christ est appelé le dernier Adam. Et nous devons comprendre ce qui se passe. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, alors que le premier Adam est devenu un être vivant. Tiens, tiens. Christ, comme Adam, est né de l'esprit. Adam avait un corps, Dieu souffle et il vient vivant. Jésus, il reçoit un corps dans le sein de Marie, et le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, vient en Marie et devient le second Adam. Et le second Adam marche dans toute l'autorité du premier Adam, parce que le premier Adam avait perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée en cédant à l'ennemi. Mais le premier Adam devient un être vivant, et malheureusement, à cause du péché, il décline en plus. Mais le second Adam, il devient un esprit vivifiant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque Christ ressort du tombeau, il ne ressort pas en tant que dernier Adam, il ressort en tant qu'homme nouveau. C'est une nouvelle humanité qui est manifestée. C'est totalement un nouveau Christ dans sa nature. En tant qu'homme, cette fois-ci, c'est plus le même Adam. Il a enfanté les prémices d'une nouvelle création, de ce que nous allons devenir. C'est pour ça qu'il a dit aux pharisiens, mais non, quand les hommes et les femmes vont ressusciter, ils ne vont plus se marier, ils seront comme des anges, comme des êtres célestes. C'est ce qu'il dit dans les évangiles. Amen. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu, ça. Et ça, ça doit être la base de notre foi. Au tombeau, Jésus est aussi dans Luc 19, il parle d'une parabole et il est parti aussi se faire investir d'une autorité royale. Il explique que quelqu'un de haute naissance, il parle de lui, est parti se faire investir d'une autorité royale dans un pays lointain. Et Jésus est parti se faire investir d'une autorité extraordinaire lorsqu'il est parti pendant ces 3 jours. Et lorsqu'il est revenu, c'était quelqu'un de différent. Et ça, nous devons comprendre. Jésus sur la terre était, oui, le premier à bouger dans la puissance d'Adam. Mais quand Jésus est ressuscité, il ne bouge plus uniquement dans la puissance d'Adam. Parce que Adam a échoué, Adam n'a pas pu accomplir ce que Christ a accompli. Et quand Christ revient, il a une mesure d'autorité, de puissance. Il a créé quelque chose de totalement différent. Amen. Comprenons donc bien ceci. Le premier Adam, par exemple, n'a jamais eu l'autorité pour régner dans le ciel. Dans Genèse 1, verset 26, il est écrit, « Et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les reptiles, sur tout ce qui rampe sur la terre. » Genèse 1, 26. Aucunement, Dieu, le Père, avait donné l'autorité au premier Adam sur le ciel. Le premier Adam n'avait pas cette mesure d'autorité. Le deuxième, si. Dans son processus de croissance, Adam lui a échoué dans le test de l'obéissance. Et même pire, son autorité lui a été enlevée. Jésus, non, le dernier Adam, Jésus, après sa résurrection et son obéissance, par la souffrance, il a été promu à une dimension d'autorité que le premier Adam n'a jamais eue. Qu'aucun homme n'a jamais eue. Philippiens 2:8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, alors qu'Adam n'a même pas pu obéir pour manger, ne pas manger un fruit. Jésus lui a obéi jusqu'à la mort, en acceptant la souffrance, pour même payer la dette que le premier Adam a fait. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux. Adam n'a pas eu cette autorité-là. Sur la terre, oui Adam. Sous la terre. Adam n'a pas eu ça. Pourquoi Christ a eu ça? Parce qu'il est mort. Et pendant 3 jours, il est parti dépouiller l'ennemi, récupérer les clés du roi du séjour des morts, triompher de la mort, une correction à toute l'armée de Satan, et prêcher aux esprits au temps de Noé. Et parce qu'à cause de la bêtise d'Adam, il a dû faire ça en plus. Du coup, la bêtise d'Adam lui accorde une autorité sous la terre. Parce que Christ, frères et sœurs, parce que Christ est le mystère caché avant tous les temps. Par lui, en lui, tout a été créé. Le plan de Dieu, c'était Jésus-Christ. C'était cette nouvelle humanité. Ce n'était pas Adam uniquement. Dieu est souverain et il savait la fin avant le commencement. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde, pas il y a 2000 ans. Et quand Christ est arrivé, il savait ce qu'il devait faire en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu et pleinement homme. Et donc Jésus a payé la dette du premier Adam, de toute la race adamique. Et jusqu'à sa mort, Jésus a été appelé le dernier Adam. Mais à sa résurrection, il devient le second homme. Il a enfanté une nouvelle nature, un nouvel homme qui a une autorité supérieure à celle qu'avait Adam. Si le peuple de Dieu réalise ça, vous êtes timide. Vous ne vous rendez pas compte que ça, c'est l'évangile. C'est parce qu'on a du mal à croire à la résurrection. Ce n'est pas un conte de fées. Trois jours de mystère, de travail, de créativité. Et c'est un nouvel homme qui sort de la tombe. Un nouveau corps glorifié. Le second homme n'est jamais né d'une femme. Il n'y a pas de généalogie, le second. Christ, quand il sort de la tombe, il est sans généalogie. Il est sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, qui n'a ni commencement ni fin. Je sais, c'est la parole de Dieu, ça! C'est un nouveau Christ, un Christ Jésus qui sort extraordinaire, totalement différent. Satan n'a aucune puissance sur cet homme nouveau-là. Aucune. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, « Mais ne savez-vous pas que nous allons juger les anges ?» Un Corinthien. Je ne sais pas, mais ça paraît gros. Hein. La Bible dit que l'homme a été créé pendant peu de temps inférieur aux anges. Mais cette nouvelle humanité en Christ qui est les prémices, elle a une autorité extraordinaire. C'est pour ça que Jésus dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Tout homme né de femme, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Mais celui qui est né d'en haut de la parole de Dieu, de Christ, qui reçoit la semence de Dieu, est plus grand que lui. Petit Jésus. Moi je suis content. Je me dis, Seigneur, merci pour les bénéfices de la résurrection. Moi, je prends. Satan n'a aucune puissance sur cet homme-là, la nouvelle créature. Il a reçu donc, cette nouvelle créature, une autorité. Et les premières paroles de cet homme nouveau, qui est Jésus-Christ, nouvelle, n'oubliez pas, Jésus a triomphé en tant qu'homme, même s'il était 100% Dieu. Son obéissance jusqu'à la mort a fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Pas au nom uniquement de Christ, au nom de Jésus, l'homme, cet homme-là qui transportait Dieu, car Dieu était en Christ, cet Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, et cet homme qui a triomphé de l'ennemi en tant qu'homme, lorsqu'il est mort et parti dealer avec l'ennemi, il était saint, pur, sans péché, la mort ne pouvait pas le garder, il a dépouillé l'ennemi, il a pris les clés du séjour des morts, il est parti recevoir une toute nouvelle autorité, une toute nouvelle royauté en tant qu'homme assis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, Christ a un corps qui s'appelle Jésus. Mais dans l'éternité passée, ce n'était pas comme ça. Et là, il remonte, Christ en tant que fils, avec un corps qui s'appelle Jésus-Christ. Et il a une autorité qu'aucun homme n'a eue. Et ça, c'est le salut qu'il offre à ceux qui croient. Alors les premières paroles de Jésus dans Matthieu 28, 18 sont « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » C'est bon ça. Jésus avant ses disciples, il dit maintenant « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Après sa résurrection, il prend une autre dimension, celle que Dieu a toujours voulu pour lui, parce que Christ est le mystère caché avant tous les temps. Et il arrive avec une autre dimension, il dit à son peuple, il dit à ses disciples, maintenant allez et comprenez que cette puissance-là, je vous la donne aussi pour soumettre les nations. Apocalypse 1, 18 nous dit « J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Quand Jean, l'apôtre Jean, a revu Jésus dans l'Apocalypse, il n'a pas reconnu. Il est tombé. Là, l'Apocalypse signifie révélation de Jésus-Christ. Ce n'est plus le Jésus selon la chair. Pourtant, Jean, qui est le disciple que Jésus aimait, ne le reconnaît pas. C'est un Jésus extraordinaire. Une nouvelle humanité qui se manifeste avec tellement de puissance que Jean tremble. Il tombe à genoux. Et Jésus lui dit, hey, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Et je détiens les clés des morts et du séjour des morts. Il a l'autorité. Et il dit à son église, à ses disciples, je vous donne les clés du royaume des cieux. Par la puissance de la résurrection, les bénéfices de l'autorité dans le nom de Jésus-Christ nous fait de nous des dangereux. Qui es-tu en Christ? As-tu l'assurance de ton identité en Jésus-Christ? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Quelle image as-tu de Jésus-Christ? Celui selon la chair ou celui selon l'esprit? Tu seras transformé en fonction de ce que tu vois. Alors vois bien. Romains 8, 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Sa propre résurrection fait de lui les prémices d'une nouvelle lignée, d'une nouvelle création. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples dans Jean 16, il y a les douleurs de l'enfantement, le côté, l'eau et le sang. Et l'apôtre Jean, dans l'épître de Jean, dit, mais il y a trois témoins, l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang sont des témoins qui ne mentent pas. Ils parlent en réalité d'une nouvelle identité, d'une nouvelle création, le mystère de Christ. C'est ça l'évangile. L'apôtre Paul dit dans Colossiens, dit dans Éphésiens, ne vous éloignez pas de ce qui vous a été partagé. Ne vous éloignez pas de ça. Ne vous éloignez pas de ce qu'on partage ce soir. C'est la base. Le nombre de bénéfices que nous recevons de sa mort. Le nombre de bénéfices que nous recevons de sa résurrection. Colossiens 1, 15. car il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est en tout le premier, tout était fait par lui. Quelqu'un me disait aujourd'hui, oui, mais dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée, par exemple, a déjà ressuscité un mort. Je dis oui, mais ce mort-là, ressuscité, il est remort après. Parce que Dieu a la puissance de la vie, donc il est capable de ressusciter, mais la personne est remort. Mais quand celui qui s'appelle la résurrection et la vie a manifesté la puissance de la résurrection, il y a quelque chose d'autre qui s'est produit. Dans la puissance de la résurrection, il a produit une nouvelle création, une nouvelle humanité, qui, elle, ne mourra jamais. Et lui, il est les prémices de nombreux frères qui croient en lui, frères avec un grand F, c'est-à-dire sœurs aussi avec. Mais en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni barbares, ni païens. Nous sommes tous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul de Galates dit, mais ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Qui es-tu en Jésus-Christ ? As-tu l'assurance de ton identité en Jésus-Christ? Connais-tu Jésus-Christ selon l'Esprit et non pas selon la chair? Ou es-tu simplement influencé par les images d'un Jésus gentil qu'on voit dans les films ou sur les images? Et tu ne comprends pas que Christ, c'est pas ça uniquement. C'est pas ces images-là d'ailleurs. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il est dangereux. Il est tout puissant. Par lui, tout a été créé. Pour lui, avec lui et en lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce que Dieu a créé, c'était pour lui. Christ, cette nouvelle création, qui est les prémices d'une nouvelle humanité. Un avec Dieu, 100% homme et 100% Dieu. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est comme si, je ne sais pas, tu veux... imaginez quelqu'un qui veut construire un satellite et son but, c'est que ce satellite va dans le ciel et protège toute la nation. Mais pour ça, il faut d'abord créer les fusées, créer la NASA, faire quelques essais pour que le satellite qu'il fait à un moment donné, puisse, lorsqu'il va partir et être le centre de tout ce pourquoi il a créé. Vous comprenez? Parce que Christ est le commencement et la fin. Par lui, tout a été créé. Dieu a fait toutes ces choses-là depuis le commencement du monde, a laissé Adam chuter, a laissé l'ennemi venir sur terre, a créé l'homme à son image, est venu nous racheter pour ça. Pour ça. Par lui, avec lui et en lui, tout a été créé. Il réconcilie tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Ça, c'est Jésus. Ce Jésus-là qu'on sert. Et il est en nous. Et Christ en nous est l'espérance de la gloire. Ceux qu'il a aussi prédestinés, il les a aussi glorifiés. Pour que toi et moi, on groove. Pour que toi et moi, dans notre vie, on brille. Il a pris l'humiliation, il a fait tout ça pour ce plan-là. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Christ mort et ressuscité. Voilà les bénéfices, entre autres. En quelques minutes, j'ai essayé de vous partager ça. Il nous donne l'autorité. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Waouh! C'est pour ça que dans Éphésiens, il est écrit que maintenant, le monde céleste apprend par le biais de l'Église, découvre la sagesse infiniment variée de Dieu. Et je pourrais vous dire encore une tralée de versets. De Corinthiens 5, lisons ensemble. Dites ainsi, Corinthiens 5, 16. Ainsi. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Verset suivant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Waouh. Waouh. Ça, c'est notre Seigneur, frères et sœurs. Est-ce que tu crois que tu comptes pour lui? Oui. Si tu veux savoir si tu comptes pour lui, ben regarde tout ce qu'il a payé pour que toi et moi, on puisse porter son nom. Regarde, il te fait tellement confiance, il me fait tellement confiance qu'il a versé son sang pour toi et pour moi. Pour que toi et moi, on puisse le représenter. Pour que toi et moi, on puisse recevoir l'autorité de son nom. Pour que toi et moi, on puisse exercer l'autorité qu'il nous donne, même sur Satan et ses démons. Et sur les circonstances. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Alors, est-ce que tu comptes pour Jésus? Oui, tu comptes pour Jésus. Est-ce qu'il te fait confiance? Oui, il te fait confiance. Il te fait confiance avec sa vie. Il t'a donné sa vie. Il a versé son sang. Il te donne son nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Bien au-dessus, nous dit la parole de Dieu, de toute autorité, de toute domination, de toute principauté. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce que Jésus remplit tout en tous. C'est lui le plan de Dieu. C'est pas juste un simple homme selon la chair. C'est notre Seigneur et Sauveur. Notre libérateur. Et il veut délivrer ce soir. Il veut guérir ce soir. Et il veut que certains d'entre vous reçoivent ce soir des bénéfices. Il a payé le prix fort pour que toi et moi reçoivent les bénéfices. Il a payé le prix fort pour que tu sois guéri. Il a payé le prix fort pour que toi et moi nous soyons une nouvelle créature. Il a payé le prix fort pour que nous puissions porter son nom. Et que dans le nom de Jésus, les démons fuient. Ce n'est pas à cause de nous ou à cause de nos actes de bonté. C'est à cause de sa bonté. C'est à cause de son œuvre. Et non pas à cause de nos œuvres. C'est pour ça qu'on peut réclamer ce soir la guérison. C'est pour ça qu'on peut réclamer ce soir la délivrance. C'est pour ça qu'on peut réclamer ce soir la liberté. C'est pour ça que dans le nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et il vit, et il trône, et il siège. Et il nous fait asseoir à la droite de Dieu. C'est pour ça qu'il écrit dans Colossiens 3. Si tu es ressuscité en Christ, cherche les choses d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Et non pas celles qui sont sur la terre. Affectionne-toi des choses d'en haut. Parce que quand tu t'affectionnes des choses d'en haut, tu commences à découvrir qui tu es réellement. Et tu comprends ce que tu es en lui pour l'éternité. A bien plus de valeur que toutes les choses que tu peux posséder dans ce bas monde. Rien ici, dans ce bas monde, ne peut nous apporter les bienfaits spirituels que Jésus nous offre par sa mort et sa résurrection.